On revient aujourd'hui pour vous parler de Wonder Woman à travers un troisième run, le troisième scénariste marquant qui va être resté sur la série, qui va y être resté exactement 3 ans, 36 numéros. Un scénariste qui a été largement sous-estimé, notamment à cause d'un début un peu poussif sur ce run, mais qui est probablement un de ceux qui a apporté le plus à la redéfinition du personnage, à part George Perez évidemment lui-même, qui avait fait tout le début. Si le run de John Byrne, puisque c'est lui dont on parle, est un peu timide au départ, c'est parce que de manière évidente, il n'a jamais lu de Wonder Woman quand il commence à écrire la série. Et donc, si on s'en tient aux 13 premiers numéros, on constate que Byrne reprend le personnage, il y va à sa sauce, c'est-à-dire qu'il va réintroduire des personnages à lui, et surtout, en parallèle, il va utiliser le travail de Jack Kirby chez DC, puisque c'est des personnages qu'il connaît le mieux, et sur lesquels il va jouer. Donc, dès le premier arc, sa Wonder Woman arrive directement dans une nouvelle ville qui s'appelle Gateway City et où elle fait la rencontre d'un officier qui s'appelle Mike Shore qui va l'accompagner dans cette première histoire en 4 parties où évidemment elle va combattre directement Apocalypse et Darkseid et où Themyscira va être en partie détruite et où sa mère va disparaître. Ces 4 épisodes étaient parus en France dans le relaunch de Strange avec le début de l'arc suivant. Les 106 à 109, eh bien on est à nouveau dans un nouveau combat et là on voit que Byrne commence à avoir lu les histoires précédentes et à se rendre compte qu'il aimait bien ce qu'avait fait Perez et que s'il avait su au départ, il n'aurait peut-être pas déménagé Wonder Woman à Gateway. Du coup, pour remplacer les Capatellis, donc la mère et la fille qui étaient dans la première série, dans les 100 premiers numéros, il crée les Sandmark, une mère et une fille qui vivent seules. La mère est comme dans le premier cas, directrice d'un musée et donc Diana va travailler dans ce musée avec elle et donc tout ce fonds d'archéologie va permettre d'introduire des histoires et c'est notamment le cas dans cet arc où finalement on va avoir le Phantom Stranger, Morgan The Fae et surtout The Daemon qui arrive et The Daemon va rester un des personnages importants de la série jusqu'à la fin du run puisque sous l'identité de Jason Blood il va être l'intérêt amoureux de notre archéologue mère. L'arc suivant va amener des résurrections de personnages dont on ne sait pas trop pourquoi, avec notamment Sinestro, Doomsday et Barry Allen. C'est bizarre que les personnages qui du coup sont revenus depuis, hein, c'était tous en cette mort oui, en 96, depuis ils sont tous revenus et d'actualité. En tout cas, dans cet arc, on va surtout avoir Cassie et Sandmark qui devient Wonder Girl. Avec des artefacts qu'elle va utiliser qui sont tout simplement ceux qu'utilisait Artemis jusqu'au sang pour avoir ses pouvoirs et être Wonder Woman. Donc des sandales ailées et un bracelet de force qui lui permettent d'avoir des pouvoirs. Et donc là, on termine la première année où finalement, on ne sait pas trop si Byrne sait ce qu'il veut faire.
Ça a l'air d'être un défilé de guest stars, en gros.
C'est complètement un défilé de guest stars. Il met en place au fur et à mesure ses personnages. En même temps, en 13 épisodes, il a posé 3 personnages secondaires. Soit n'est pas énorme. Il y a 3 arcs en 4. À partir de là, on commence à avoir une histoire qui avance. Dans le 114, il nous refait le combat contre Dr. Psycho, une histoire qu'on a vue plusieurs fois, qui fonctionne toujours autant. Et on retrouve surtout bien les Capatellis qui sont de retour, donc la mère et la fille. On va également retrouver à ce moment-là Hippolyte, qui est donc amnésique et qui est en train de se transformer en argile. Et dans l'arc suivant, on va découvrir qu'elle n'est pas la seule Amazone à se transformer en argile. Un quatrième personnage est amené donc à partir dans les 115-116. Ce personnage, c'est Harold Champion, un super-héros qui, à son tour, semble avoir un intérêt amoureux pour Wonder Woman, ce qui va commencer à enquiquiner Mike Shore, qui visiblement avait aussi, enfin pas visiblement, donc c'est sûr, avait également des vues sur l'Amazon. Cette histoire nous ramène également les Challengers of the Unknown, comme quoi on continue dans les guest stars, et surtout recréer l'avion invisible, avec cette fois-ci une explication extraterrestre. L'avion invisible est une matière qui peut invisible, mais qui peut prendre toutes les formes. L'imagination de Wonder Woman en fait un avion, pourquoi pas, c'est un élément très secondaire dans la série, mais qui fonctionne très bien dans ce cas-là. Les 118-119 vont nous présenter le personnage de Cheetah de retour. Et surtout, on continue à voir ce qui arrivait à Cheetah. Et on explore vraiment la question de ces Amazones transformées en terre, puisqu'on va aussi, à cette époque, découvrir que tout Themyscira voit ces Amazones se transformer en guerre. Et là, c'est le grand moment de réflexion, puisqu'il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe. Le numéro 120 pour les 10 ans est un numéro double, où finalement Wonder Woman va expliquer à tous les personnages de la série, c'est-à-dire donc les Sandmark, mère et fille, The Daemon et Maisher, son histoire, comment elle est née de l'argile. Et on va avoir un récit complet des 100 premiers numéros refait en une trentaine de pages, ce qui en soi est un exploit, où tout en l'intégrant à l'histoire, Diana va nous raconter ce qui se passe exactement. C'est également à cette époque qu'on peut placer une histoire en parallèle, qui est le Wonder Woman annual numéro 6, le Pulp Hero. À l'époque, tous les annuals avaient une histoire spécifique. Et donc là, c'était une histoire de monstre qui avait été faite. Elle est écrite et dessinée par John Byrne, qui en fait fait les esquisses. Et toute la finition est Tom Palmer. C'est assez étonnant, mais c'est très efficace et ça fonctionne plutôt bien.
On a vu pire comme association.
Voilà. Et du coup, le résultat donne bien sur l'aspect horreur, en donnant quelque chose de plus sombre au dessin de John Byrne, tout en regardant la qualité. Non, la fin, c'est du Ed Benesch, qui revient sur une histoire d'Artemis, mais sans Messner Lobbs. Et ça tombe bien qu'on parle d'Artemis, puisque Artemis, elle revient juste après. Elle revient aider Wonder Woman. Et on arrive un peu dans le troisième mouvement de la série, puisque à l'issue de cette transformation où toutes les Amazones se transforment en grès, déjà on va découvrir qui est évidemment Harold Campion, donc qui se fait appeler Champion. Donc on va en parler quand même, hein, c'est un peu 15 ans comme histoire, il y a prescription. C'est tout simplement Hercule qui s'est fait passer pour ce personnage. Bon, il a un peu dragué la mère, on l'a vu la semaine dernière, et maintenant il drague la fille. Artemis est possédée, elle va combattre Wonder Woman dans ses épisodes. C'est l'occasion notamment pour Mike Deodato de venir nous refaire une couverture à cette occasion. Mais on va avoir l'arrivée d'Artemis comme vrai personnage important de la série. Surtout qu'à ce moment-là, l'arc aboutit au 125 à la mort de Diana, qui du coup va s'être transformée comme les autres en gris. On va réussir à la reconstituer, mais son esprit est parti. Et les deux dieux de l'Olympe vont en faire la déesse de la vérité. Mais donc, il n'y a plus de Wonder Woman sur Terre. On en a plus une ? Non, eh bien, on va en avoir quatre.
Pourquoi ? Ça rappelle la mort d'un certain Superman, quand même.
Oui, avec, là, par contre, les quatre qui fonctionnent dans le même titre et vraiment en groupe. On est à l'époque du crossover Genesis, qui est écrit par John Byrne. C'est lui qui fait également, cette année-là, le crossover de l'été. Et qui va être dessiné par Ron Wagner, qui, là, qualitativement, va être quand même en dessous de ce que peut nous faire John Byrne sur la série principale. Et donc, dans Genesis, eh bien, tous les pouvoirs de tous les héros vont se mettent à dysfonctionner à cause de la source. Il faut dire qu'à l'époque, John Byrne écrivait également les New Gods. Et donc, la source dysfonctionne, modifie tous les pouvoirs et notamment va ramener des pouvoirs visiblement à un personnage qui est Donna Troy. Alors, ça arrivait un peu tôt pour le timing de John Byrne. C'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'elle a eu des pouvoirs pendant Genesis, on ne sait pas vraiment si elle les récupère pendant les 11 derniers épisodes du 126, donc le Genesis au 136, l'épisode de fin. Mais c'est surtout le moment où John Byrne sait maintenant comment corriger tous les oublis que nous a laissé en plan George Perez quand il est parti au numéro 64. Correction, c'est au 62 évidemment qui est sorti George Perez. Je sors.
3 minutes de pénalité.
Ah bah, d'accord, je leur mettrai 3 minutes de pénalité, je vais déborder.
Déjà, il est l'heure.
Et c'est pour ça que j'ai dit que je vais leur mettre 3 minutes de pénalité, si tu m'arrêtes, ça va faire 5. Donc, quand même, dans tout ce dernier run, on va voir Hippolyte, on va voir Wonder Girl, on va voir Donna Troy, et on va voir Hippolyte, qui va du coup prendre le manteau de Wonder Woman à la place de sa fille. Le fait de voir Hippolyte dans le costume de Wonder Woman va rappeler des choses, notamment au héros du Golden Age et à un certain Flash de l'époque, Jay Garrick, qui se rappelle avoir combattu à ses côtés au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pendant qu'Artemis continue à mener l'enquête avec Wonder Girl dans le présent, eh bien Artemis va se retrouver dans le passé où elle va être prisonnière pendant plusieurs années et faire partie de la Justice Society. À l'époque, elle se fait une ennemie qui est Dark Angel. Et cette Dark Angel donc, va d'abord, quand elle repart dans le futur, effacer tout souvenir de celle qui était Wonder Woman. Et c'est ce qui explique que personne ne s'en rappelait jusqu'ici. Et que tout simplement, le fait qu'elle revienne dans le costume a brisé le sort. Et que, eh bien, 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard, on se rappelle qu'elle a été Wonder Woman. En parallèle, évidemment, on va apprendre autre chose. C'est que Dark Angel, elle, n'avait pas oublié et a voulu se venger d'Artemis en s'attaquant à sa fille. Et sa fille, qui s'ennuyait parce qu'elle était la seule enfant sur Themyscira, avait demandé à l'oracle de lui avoir une amie. Et donc, elle avait ensorcelé un miroir où, dont le reflet avait pris vie et était devenu Donna Troy, donc une espèce de sœur jumelle. Sauf que, évidemment, quand Dark Angel a voulu se venger d'Hippolyte en lui prenant sa fille, elle a pris Donna Troy. Et a condamné Donna Troy à vivre des vies catastrophiques, à avoir une poisse monstre, et à chaque fois, à ce que ça se passe mal. Et donc, la dernière vie de Donna Troy n'était qu'une de plus. Dans le dernier arc, elle sauve évidemment Donna Troy de l'effacement et d'une nouvelle vie catastrophique. Sauf que sa mémoire est un peu effacée, et que pour recréer la Donna Troy qu'on a aujourd'hui, ils vont réutiliser tout simplement les souvenirs de Wally West, un de ses meilleurs amis, pour redonner une vie à Donna et qu'elle retrouve la mémoire qu'elle avait perdue à la fin de cet arc. Entre temps, on l'a dit, Diana était déesse, sauf qu'elle a un problème, c'est que les dieux n'aiment pas qu'on intervienne trop dans les choix des humains. Et évidemment, Diana n'arrêtait pas de sauver les copines. Et donc, elle se fait bannir de l'Olympe. Et donc, au 136, elle revient tout simplement sur Terre. Et donc, Hippolyte lui rend le costume. En parallèle, Wonder Girl eh bien, a maintenant des pouvoirs puisque Zeus lui a confié qu'elle avait du sang divin dans les veines et donc lui a donné des vrais pouvoirs par elle-même. On devait avoir une mini-série qui n'a jamais eu lieu sur le personnage. John Byrne est parti après ce numéro 136 et sur un run qui est vraiment de qualité. Et surtout, il faut lire donc la fin, globalement la dernière année, puisque cette dernière année va apporter énormément au personnage de Donna Troy. C'est à partir de cette histoire qu'enfin le personnage est exploitable, qu'il a des origines qui sont claires. On est quand même à l'époque en 98, ça fait 12 ans que Crisis est terminé, et c'est après 12 ans qu'on arrive enfin à avoir quelque chose de cohérent qui se tient et qui est efficace sur le personnage, et c'est ce qui va permettre notamment son retour dans les Titans. Donc une excellente période, même si la première année est un peu plus longue, qui apporte beaucoup à tous les personnages et qui surtout va finalement permettre de gérer tous les problèmes de continuité qu'on avait eu jusqu'ici. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui, à mon goût, est du chef-d'œuvre au niveau scénario, parce que réussir à rattraper des coquilles après plus de 10 ans et à le faire d'une manière fluide, simple, efficace, qui marche toute seule et où personne n'a rien à redire. Et puis, quand même, entre les New Gods et cette série à l'époque, la fin des années 90, c'est quand même le moment où John Byrne a su faire des histoires en étant hyper respectueux des personnages qu'il a utilisés, sans essayer de les remodifier à sa sauce et en intégrant vraiment tout ce qui a été fait au préalable. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a pu dire oui, c'est un grand scénariste, c'est un homme qui a des idées et qui sait donner une cohérence à des personnages et à un univers.